Patrice Gautry, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes chef économiste à l'Union bancaire privée. On va parler avec vous d'économie, de perspectives. Peut-être pour commencer, parlons ensemble des États-Unis. C'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. On a vu que sur les marchés financiers, les investisseurs, eux, effectivement, ont largement acheté les marchés américains. L'économie américaine, on se pose davantage de questions, à savoir où elle en est aujourd'hui après toutes ces aides, de la Réserve fédérale américaine. Quel est votre point de vue sur les États-Unis aujourd'hui?
Alors, le point de vue est relativement positif, je dirais, en ce sens où on s'attend à une croissance un peu moins de 2%, 1,8% cette année, ce qui veut dire qu'en termes de dynamique de la croissance, le deuxième trimestre se présente comme un point faible, hein, ralentissement de l'activité manufacturière, ralentissement aussi de la consommation des ménages après un très bon premier trimestre. Donc on s'attend plutôt à une reprise d'activité sur la deuxième partie d'année, et donc d'une activité qui est comprise entre 1 et 1,5 au deuxième trimestre, on devrait rebondir sur une activité qui est entre 2 et 2,5 en deuxième partie d'année, n'étant pas effrayé par éventuel changement de la politique monétaire américaine. Si changement il y a, il devrait consacrer en fait cette amélioration sur le front de l'activité et peut-être une amélioration aussi sur le front de l'emploi. On a vu effectivement que la Fed regarde non seulement le taux de chômage, mais aussi un ensemble de paramètres, ce qui veut dire qu'à très court terme, elle ne devrait pas changer de politique, notamment au mois de juin, on ne devrait pas avoir de changement majeur. Et par contre, on devrait peut-être avoir une inflexion, une réduction possible de 85 à 65 milliards d'achats mensuels. C'est une éventualité qui peut arriver au cours de ce second semestre.
Donc, de votre point de vue, on n'aura plus la croissance d'avant la crise, hein, mais l'économie américaine, effectivement, se porte mieux, même si elle n'a pas, effectivement, elle est loin de son potentiel de croissance, celui qu'elle avait, on va dire, aux années précédentes.
Celui qu'elle avait avant la
Avant
crise, et
la crise.
effectivement, il y a tout un débat un peu académique entre économistes et organisations financières internationales, le FMI, l'OCDE, sur l'évaluation en fait de la croissance potentielle américaine. Il est évident qu'auparavant, un 2, 2,5 aurait représenté le potentiel, et là, on serait donc aujourd'hui juste en ligne avec ce potentiel. Néanmoins, la crise financière a laissé des traces. Même s'il y a un mouvement de réindustrialisation de l'économie américaine en ce moment, le potentiel est certainement inférieur aux 2%. Il bénéficie quand même de choses qui sont positives, les gains de productivité et bien entendu la croissance de la population active. Ce sont des fondamentaux qui soutiennent la croissance américaine, mais sur un niveau qui est un niveau moyen par rapport à l'ensemble des pays développés sur les références historiques. Mais aujourd'hui en Europe, on serait très très content d'avoir 2% de croissance.
Alors, si on passe à la zone euro, on est effectivement loin de ce potentiel. On a eu bien sûr l'Europe avec les différentes crises qui se sont succédées, avec sur le plan économique, bon, des plans d'austérité un peu partout. L'impact sur l'économie a été effectivement assez fort. Est-ce qu'aujourd'hui on entrevoit un début d'amélioration ou est-ce que c'est encore trop tôt pour y penser?
Non, c'est pas trop tôt pour y penser et au contraire, il faut y penser et regarder le comportement et des marchés financiers et de l'économie avec peut-être cette perspective. Alors, on ne va pas dire que la croissance européenne va rebondir dès demain, mais il me semble que à la fois sur les indicateurs mensuels comme sur les inflexions de la politique économique, c'est-à-dire politique budgétaire et politique monétaire en Europe et plus globalement dans les pays développés, mais surtout sur la zone euro, on a eu un changement. On a accepté, la Commission a donné un certain délai d'ajustement supplémentaire pour la réduction des déficits et la politique monétaire, la Banque centrale européenne est en train de chercher en fait une voie pour être un peu plus agressive. Elle ne sera peut-être pas autant que la BOJ ou que la Fed, mais on sent effectivement qu'il y a un besoin d'avoir une politique de réflation plus marquée. Donc, aujourd'hui, on a passé les 6 derniers mois à réviser à la baisse la croissance européenne, à être dans un environnement extrêmement pessimiste et anxiogène. Et aujourd'hui, je dirais, il faut peut-être revoir un regard sur un potentiel de reconstruction de l'activité européenne grâce à cette politique monétaire plus réflationniste et des indicateurs, on l'a vu avec l'Espagne notamment, l'indicateur de confiance des entreprises, qui a fortement rebondi. Donc quelque chose qui est en train de se recomposer. Ça va être très lent, ça va être très long, mais je voudrais voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide.
Alors, si on se positionne du côté de l'Asie, on a alors peut-être parlons d'abord du Japon, ça a été vraiment l'événement sur les marchés et sur l'économie, hein, avec cette dépréciation du yen. Ça a été assez spectaculaire, assez rapide, une politique, on va dire, indépendante, entre guillemets, en tout cas des autres banquiers et centraux, hein, indépendante au Japon, c'est autre chose, bien entendu. Ça a eu un impact quand même assez important. Est-ce que ça a permis à l'économie japonaise de véritablement retrouver du souffle?
Oui, la réponse est oui. La dévaluation du yen organisée, alors pas directement, mais indirectement, organisée par la Banque centrale japonaise, plus effectivement, je dirais, quelques mesures de relance. On redonnait confiance sur l'industrie, on redonnait confiance aux ménages japonais. Et effectivement, il y a des indicateurs d'activité, à la fois du côté des indicateurs de confiance, comme le PIB, qui sont en train de montrer que l'économie est en train de rebondir. Alors, c'est effectivement une première phase. La deuxième phase, ce sera à poursuivre ce rebond, à le consolider au travers de mesures structurelles. C'est ce que l'on attend effectivement de la part de M. Abe courant mois de juin, dans la perspective d'élections donc au mois de juillet, pour voir effectivement de consolider en fait ce mouvement de reprise. Il faudra effectivement peut-être encore continuer à dévaluer le yen. Donc la baisse du yen n'est peut-être pas terminée. L'objectif d'inflation qu'a retenu la BOJ, donc 2% à horizon fin 2014, est un objectif très ambitieux qui passe effectivement par encore une étape de dévaluation du yen versus le dollar.
Donc ça veut dire que ces mouvements des devises, hein, assez spectaculaires, assez importants, ne sont pas terminés et ça aura de l'impact sur effectivement le dollar, bien sûr, mais sur d'autres devises potentiellement.
On le voit, les devises émergentes sont en train de réagir à la fois à la politique japonaise, mais aussi aux inflexions de discours ou de stratégie du côté de la Fédérale Réserve américaine. La BCE ne dit rien sur l'euro. L'euro était peut-être un petit peu trop cher. Oui, ça va chahuter sur les devises. Et oui, on a la possibilité d'avoir éventuellement une guerre des devises si les stratégies des banques centrales sont relativement peu coopératives. On peut imaginer que la BOJ a obtenu l'adoubement de la Fed sur cette étape de dévaluation et l'adoubement également donc du FMI. Mais si on va plus loin et si on va plus vite, effectivement, il y a un risque de guerre des devises. D'ailleurs, les banquiers centraux des pays comme le Brésil sont très réactifs sur ce sujet.
Et puis on sait qu'historiquement, hein, quand une banque centrale a décidé d'agir, on va dire, sans coordination avec les autres, ou en tout cas de le faire aussi rapidement, ça a eu souvent des impacts importants.
Ça a des impacts importants et on le voit bien sur les conséquences de flux de capitaux et de taux de directeurs anticipés. Les pays émergents sont en train de faire une course à une baisse de taux pour à la fois essayer de gérer leurs devises. Des fois, elles s'apprécient trop vite ou des fois, elles se déprécient trop vite. Et ceci se fait, je dirais, au détriment de leur inflation parce qu'on a des pays comme l'Inde, comme le Brésil, comme la Russie d'ailleurs, qui ont des niveaux d'inflation encore relativement élevés. Et donc, leurs fondamentaux sont en train un petit peu d'être challengés par cette période-là. On voit les agences de notation qui deviennent un petit peu nerveuses sur ces pays.
Alors, si on parle pays émergents ou déjà émergés, pour certains le disent qu'il est déjà émergé, c'est la Chine, bien entendu. Alors, on sait que ça a un impact très important sur les marchés. On a quand même du mal à savoir ce qui se passe réellement en Chine. L'analyse que vous faites sur les derniers chiffres, sur ce qui s'est passé en Chine, est-ce que aujourd'hui, finalement, il faut s'attendre à ce que la Chine ait effectivement moins de croissance? Certes, beaucoup plus que nos pays développés, mais moins de croissance.
Oui, alors vous avez raison de le souligner, c'est toujours un niveau qui est bien supérieur à ce qu'on connaît aux États-Unis ou en Europe, qui oscille entre 7,5 et un maximum de 8%. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça se fait sans on dirait, momentum, c'est-à-dire il n'y a pas d'accélération du côté de la production industrielle, il n'y a pas d'accélération du côté de la consommation des ménages. Les exportations sont toujours un petit peu en berne puisque la demande mondiale n'est pas encore présente. Elle devrait peut-être rebondir au deuxième semestre, mais on a l'impression qu'il ne se passe rien en Chine, en fait, puisqu'on est toujours avec ce taux de croissance accroché entre 7 et 7,5. Et donc, effectivement, la lecture des marchés a été négative, les marchés ont plutôt été déçus. Et aujourd'hui, on a un changement de cap de la part des responsables de la politique économique. On ne recherche pas la croissance à tout prix, mais une croissance qui serait, je dirais, plus équilibrée. Donc, un peu plus de consommation. Mais le problème, c'est que leur outil industriel, il est encore très dimensionné en faveur des exportations. Et donc là, il y a des trous d'air dans l'activité, ce qui crée ces déceptions sur les marchés. Alors, pas d'inquiétude majeure, je dirais, peut-être sur la Chine.
Pas de hard landing, comme parfois certains investisseurs disent, ça va arriver.
Non, je ne le pense pas. Effectivement, parce qu'il y a effectivement, on le voit bien, sur les chiffres d'activité, elle tient. Mais elle n'accélère pas et elle reste effectivement entre 7 et 7,5. Et grosso modo, c'est peut-être un régime de croissance qui est plus proche de son potentiel et peut-être qui est là pour longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à l'année 2009 où on avait une activité entre 10 et 12%, eh bien, c'est un ralentissement structurel compte tenu de sa taille et compte tenu de la maturité de son développement. C'est peut-être quelque chose qu'il faut intégrer définitivement du côté des économistes comme des marchés.
Le mot de la fin, quand on pense à la France et à l'Europe, on a tendance à dire il n'y a pas de croissance, c'est une catastrophe. On voit la crise économique importante dans la zone euro et en France. Est-ce qu'on fait une erreur en pensant, en ne regardant finalement que l'Europe, sachant que le monde effectivement continue de tourner et qu'il y a cette croissance mondiale finalement 5 ans après la crise?
Alors, C'est une chance et c'est un handicap que le reste du monde continue à tourner. C'est une chance parce que ça veut dire que si on continue les réformes, si on a cette politique plus agressive de la part de la Banque Centrale Européenne, effectivement, l'Europe est capable de rejoindre le train, en fait, de la croissance mondiale. C'est un handicap, c'est-à-dire que si des pays, et notamment, parlons de l'économie française, tardent à mettre en place des réformes structurelles, elles seront dans les derniers wagons de cette reprise. Mais par contre, on a raison de souligner les économies espagnoles, italiennes, qui ont commencé à faire certaines réformes et l'économie espagnole regagne des parts de marché à la fois en zone euro comme à l'extérieur. Donc ces réformes produisent des effets, la productivité est en train de rebondir, ce qui veut dire que dans un horizon raisonnable 2014-2015, on pourrait avoir effectivement moins de contraintes budgétaires et plus de bonnes surprises en termes d'indicateurs d'activité européens enfin.
Eh bien, c'est ce qu'on souhaite. Merci Patrice Gautry d'avoir fait le point avec nous, donc chef économiste de l'Union bancaire privée.
Merci à vous.